Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Qui s'occupe de nos fous? La principale suspecte de l'incendie criminel qui a ravagé un immeuble et fait au moins 10 morts cette semaine dans le 16e arrondissement de Paris. Cette femme avait de lourds antécédents psychiatriques et cette affaire relance le débat sur le manque de moyens alloués à la psychiatrie. En 20 ans, 55 000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux psychiatriques français. Un constat qui interroge sur l'attention portée à ces malades. Les personnels alertent depuis longtemps sur la situation. Les grèves se multiplient et des collectifs voient le jour pour dénoncer ce qui ne va pas. C'est un reportage de Lise Verbeek.
Ils se surnomment les Blouses Noires. Le premier collectif né entre les murs de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, il y a un an. Un collectif qui a décidé de rendre visible ce que la société ne voulait pas voir. Aujourd'hui, les patients atteints de maladies mentales sont mal soignés. Les structures se dégradent. Il y a un vrai manque de personnel et surtout un manque de place. Le nombre de lits de psychiatrie générale a diminué de 60% en 40 ans.
Bonjour, Nicolas.
C'est ça.
Et c'est ce que dénonce Nicolas, Blouse Noire de la première heure.
On hospitalise 3 personnes dans une chambre de 2 ou même dans une chambre individuelle. Il y a des gens qui dorment par terre, qui font leurs besoins dans des seaux. Ça existe encore chez nous.
Ce qui a bien sûr une incidence directe sur l'état du patient.
Et évidemment, moins bien il est pris en charge, moins bien il va se guérir. On les fait sortir parce qu'il faut faire de la place. Donc malheureusement, on les fait sortir quand leur état ne nécessite pas forcément une sortie. Et du coup, forcément, ils reviennent plus facilement.
Et à ça s'ajoute le manque de personnel qui diminue sans cesse depuis 10 ans.
Concrètement, la psychiatrie, c'est du relationnel. C'est beaucoup de temps avec les patients. On a tendance à dire que nous, fumer une clope ou prendre un café avec un patient, c'est un soin. C'est comme si on faisait un pansement dans un hôpital général. Si on était libre de notre temps, si on avait le temps de s'occuper de nos patients, on aurait moins besoin de leur donner plein de médicaments, de les isoler dans leur chambre, parfois de les attacher à leur lit. Tout ça, c'est ce qu'on veut plus voir. On a envie de voir une psychiatrie humaine et ça existe de moins en moins.
Après un mouvement social et une grève de la faim de 8 professionnels l'année dernière, fait rarissime dans le monde de la santé, les grévistes du Rouvray ont obtenu la création de 30 postes soignants. 30 postes, c'est aussi ce qu'a obtenu le collectif Pinel en lutte, du nom de l'hôpital psychiatrique d'Amiens. Mais cela après 7 mois de grève et un campement installé jour et nuit pendant plus de 3 mois devant les murs de l'hôpital. Une avancée selon Christelle Leclerc de la CGT, mais qui ne résout pas tout.
La suroccupation n'est pas réglée. On a un grand manque aussi d'ASH dans les unités. Ça c'est pareil, c'est pas réglé.
ASH, donc il y a
agent de service hospitalier. Les gens qui s'occupent de l'hygiène hospitalière dans les unités, ils sont très importants. Et ça, c'est pareil, c'est pas réglé non plus avec le protocole, donc on va continuer à travailler aussi à ça.
Reste le problème du manque de psychiatres. L'hôpital d'Amiens en a vu partir une dizaine depuis plusieurs années. En France, plus de 25% des postes de ces professionnels dans les hôpitaux ne sont pas pourvus, selon le syndicat des psychiatres. Si la crise des hôpitaux psychiatriques est désormais médiatisée grâce aux grèves, aux lettres ouvertes de psychiatres et aux mobilisations des collectifs, un autre pan de la psychiatrie est passé sous le radar, celui de la prise en charge en ville. La situation est tout aussi critique pour les CMP, les centres médico-psychologiques. Ces structures, développées depuis presque 60 ans, constituent un maillon essentiel entre la médecine générale et l'hôpital, en particulier pour les enfants et les adolescents adressés par les psychologues scolaires. Totalement engorgés, de plus en plus de CMP ferment ou réduisent leurs heures d'ouverture.
C'est très douloureux, c'est très frustrant.
Clémentine Badet est psychologue dans un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents à Amiens.
Là, on a un problème d'effectif. On n'est pas suffisamment nombreux à travailler dans ce CMP. Du coup, on a des projets de soins ou des accompagnements pour lesquels on se dit, mince, si je pouvais travailler de façon plus étroite avec une collègue assistante sociale, par exemple, qui serait davantage disponible, ou si moi je pouvais me permettre de proposer un rendez-vous toutes les semaines ou même deux à ce patient ou à cette famille, là, on sent que quelque chose pourrait se débloquer. Mais comme on n'est pas suffisamment nombreux pour porter ces situations-là, et bien, parfois ça prend beaucoup de temps.
Ce manque de moyens entraîne des soins incomplets pour les adolescents quand d'autres attendent encore de décrocher un rendez-vous.
Et ce qui est compliqué, c'est qu'on nous renvoie souvent la liste d'attente. Franchement, qui est déraisonnable en CMP, hein, c'est entre 8 mois et 1 an. Là, on a essayé de réduire au maximum. On fait ce qu'on peut.
Face à cette mobilisation inédite de la psychiatrie et 2 jours après une grève au niveau national mi-janvier, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a proposé une enveloppe de 100 millions d'euros cette année pour la psychiatrie. Les collectifs attendent d'en voir la couleur avant de s'en réjouir. La ministre a aussi annoncé qu'un délégué ministériel à la psychiatrie et la santé mentale serait nommé et elle veut lancer une mission sur l'évolution des centres centre médico-psychologique.
En Serbie, deux décennies de guerre, de sanctions et une interminable transition économique ont fait exploser la fréquence des troubles psychiques dans le pays. D'après les chiffres officiels, environ 400 000 personnes sur 7 millions d'habitants en ont été atteintes depuis l'an 2000. Or, le prix des soins reste inaccessible pour beaucoup, sans compter les préjugés toujours très forts sur ces maladies mentales, ce qui freine leur prise en charge, Simon Rico.
D'après les chiffres officiels, en Serbie, plus de 400 000 personnes ont été affectées de troubles psychiques depuis le début des années 2000. Un nombre particulièrement élevé, alors que le pays compte à peine plus de 7 millions d'habitants. Or, la prise en charge de ces maladies coûte très cher. De 80 à 200 euros par mois, les séances hebdomadaires chez un psychiatre, des soins que la plupart des gens n'ont pas les moyens de se payer, alors que le salaire moyen dépasse à peine les 300 euros. Outre ces troubles graves, cela fait des années que les études sanitaires alertent sur l'état de stress excessif dont souffre la population serbe. La hausse de la consommation de tabac, d'alcool et de stupéfiants en est d'ailleurs l'un des symptômes. Selon les rapports de la Caisse d'assurance maladie serbe, la santé mentale de ses assurés est négligée et les malades ne consultent un médecin qu'au dernier moment, souvent quand le point de non-retour est déjà passé. La peur de la stigmatisation et du rejet, ainsi que le manque de soutien au sein de la famille, empêche souvent les gens de demander de l'aide ou de poursuivre une thérapie. Depuis 2013, une loi est pourtant censée assurer la protection des personnes souffrant de maladies mentales, mais elle peine à être respectée. Pire, elle prône encore des traitements controversés comme les mesures d'isolement pour les troubles les plus graves. Quant aux employés des institutions publiques, ils sont très mal rémunérés et en sous-effectif, ce qui nuit évidemment au suivi des patients. Les mesures d'austérité qu'impose depuis 5 ans la nouvelle majorité néolibérale ont contribué à faire baisser la qualité des soins et à avoir des conséquences préjudiciables sur la sécurité du personnel hospitalier. Pour pallier ces problèmes, on assiste à un recours de plus en plus fréquent aux sédatifs et aux antidépresseurs. Comme le dit ironiquement une plaisanterie, celui qui n'est pas encore devenu fou en Serbie n'est pas normal.
Le Brexit change la donne politique en Europe. La rupture est décidément difficile entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et du coup, les populistes européens changent leur fusil d'épaule. Après l'Italie et la France, c'est au tour de l'extrême droite suédoise d'opter en faveur du maintien dans l'Union pour mieux la changer. Et ce n'est pas sans conséquence pour les forces politiques traditionnelles. Cela remet même en cause la stratégie européenne du président français Emmanuel Macron. On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Daniel, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les partis populistes se sont débarrassés soudain de leur europhobie ?
Nullement, Juliette. Mais la pagaille économique et politique engendrée au Royaume-Uni par le feuilleton lancinant d'un Brexit qui risque de se réaliser sans accord a fait réfléchir tous les adversaires déclarés de l'Union européenne. De surcroît, les mouvements populistes participent désormais au gouvernement en Autriche et surtout en Italie depuis 2018. Après le basculement de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et la montée en puissance de ces partis en Suède, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, les populistes sont donc désormais convaincus qu'ils auront bientôt la capacité politique de changer l'Europe de l'intérieur sans prendre le risque inutile de plonger leur pays dans le chaos avec une sortie brutale de l'Union européenne.
Et qu'en est-il pour la France, Daniel ?
On se souvient que Marine Le Pen avait pris ses distances avec la sortie de l'euro en fin de campagne présidentielle. Cette fois, plus question d'agiter la menace d'un Frexit. Saluant la poussée des partis nationaux sur le continent, la dirigeante du Rassemblement National a récemment annoncé que pour la première fois, on peut espérer changer l'Europe depuis l'Europe et passer de l'Union européenne à une alliance de l'Europe des nations. Cette importante inflexion vient également de se produire début février en Suède, où Jimmy Åkesson, leader des démocrates suédois, en fait un parti d'extrême droite, annonce qu'il ne prône plus le Swixit, mais lui aussi une réforme de l'intérieur.
La France, la Suède, est-ce qu'il y a d'autres pays, Daniel, qui leur emboîtent le pas ?
En Autriche, les membres du Parti de la Liberté gouvernent depuis un peu plus d'un an avec les conservateurs du jeune chancelier Sébastien Kurz. Ils n'ont aucun intérêt à faire des mauvaises manières à Bruxelles, la politique très ferme de Kurz leur convenant parfaitement. D'autres formations d'extrême droite en Europe se contentent de ne plus évoquer la rupture avec l'Union, notamment aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande. Bien sûr, les partis ultra-conservateurs et nationalistes au pouvoir en Pologne et en Hongrie ne songent aucunement à renier une union qui les finance abondamment. Pas plus d'ailleurs que le Donald Trump tchèque Andrej Babiš.
Ces populistes deviennent donc fréquentables aux yeux de la droite classique ?
En effet, leur volonté d'en découdre avec l'Union rendait difficiles les velléités d'alliance que pouvaient envisager les conservateurs. On l'a d'ailleurs bien vu en France avec le ralliement au Rassemblement National de l'ancien ministre Les Républicains Thierry Mariani. Mais ce rapprochement entre populistes et droite classique est aussi facilité par le fait que les conservateurs se mettent dans les pas des populistes en matière de contrôle strict des flux migratoires. C'est le cas en Autriche où Sébastien Kurz tend à ce sujet la main à la chancelière allemande mais aussi au gouvernement italien. On avait observé il y a quelque temps ce phénomène aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande. Et même en France, on voit bien la droitisation du leader des Républicains, Laurent Wauquiez.
Et voilà qui n'arrange pas la stratégie européenne du président français Emmanuel Macron.
Vous avez raison Juliette, l'idée macronienne d'un affrontement entre progressistes et populistes paraît bien déconnectée de la réalité, surtout quand on constate l'effondrement des partis de centre-gauche en France, aux Pays-Bas, en Italie et même en Allemagne. En réalité, comme le soulignait cet automne le quotidien britannique Telegraph, l'homme que Macron va devoir affronter bien plus tôt que les populistes, c'est le jeune et rusé promoteur de l'axe de la volonté qu'est le chancelier autrichien Sébastien Kurz.
À bientôt Daniel.
À bientôt Juliette.
Une plongée dans les terribles conditions de vie des travailleurs venus d'Asie centrale à Moscou aujourd'hui aux mains des réseaux mafieux, quasiment réduits en esclavage. C'est Aïka, un film du russe Sergueï Dvortsevoï, qui a valu à Samal Yeslyamova le prix d'interprétation féminine lors du dernier festival de Cannes. Il sort en salle en Russie le 14 février prochain, Étienne Bouche.
À peine a-t-elle accouché qu'elle s'échappe par la fenêtre de la maternité. Aïka abandonne son bébé et veut se remettre au travail au plus vite. La jeune femme a des dettes et arpente Moscou dans tous les sens pour gagner les roubles qu'elle doit rembourser. Son regard est celui d'un animal traqué. La souffrance physique et la peur saturent les gros plans de ce film saisissant. Aïka affronte une ville hostile, épuisante, où le grondement des déneigeuses se mêle aux annonces publicitaires, mais aussi à la sonnerie obsédante d'un téléphone qui lui rappelle l'urgence de payer ses dettes. Le réalisateur du film, Sergueï Dvortsevoï, est d'abord un documentariste. Ce russe né au Kazakhstan s'est emparé d'une thématique absente dans le cinéma russe. Pour cette raison, la sortie du film dans les salles russes a une signification particulière. Sergueï Dvortsevoï.
J'estime que c'est important que les gens regardent ces individus qui prennent soin de nos rues, qui nettoient les sanitaires comme des êtres humains et non comme des travailleurs à leur service. Parce que les moscovites, et j'en fais partie, j'habite à Moscou moi aussi, nous faisons en sorte de ne pas les voir. Dans le film, nous montrons cet univers moscovite à travers les yeux d'une jeune femme immigrée. C'est son regard à elle, mais il n'empêche que c'est la réalité.
À l'exception de quelques acteurs, Sergueï Dvortsevoï a fait le choix de filmer des non-professionnels. L'équipe du film a dû convaincre des immigrés illégaux de participer au tournage. Des immigrés d'Asie centrale vivant dans la peur d'être trouvés par la police. Sa noirceur suscitera sans nul doute des critiques, mais le film a le mérite de montrer une réalité jusqu'alors invisible.
Was haben wir hier?
Es sieht nicht gut aus. Es handelt sich um einen Döner.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une fine tranche de politique dans les sandwichs des Viennois? Depuis le 15 janvier, interdiction de manger dans le métro de Vienne. Dans cette vidéo de la régie des transports viennois que vous entendez, c'est bien clair, une policière mène l'enquête parce que grignoter entre deux stations, c'est un crime contre l'étiquette du savoir voyager. Et on peut même retrouver le coupable rien qu'à l'odeur. Deux semaines après la mise en place de l'interdiction, les utilisateurs n'ont pas tous bien digéré la nouvelle et certains soupçonnent même des manœuvres politiques. Politicienne derrière cette mesure, Céline Béal.
Juste devant l'entrée du métro 6, station Volksoper,
Trois petits stands se partagent le trottoir. Un vendeur de hamburgers, un vendeur de saucisses et un vendeur de kebab. Un petit groupe d'étudiants attend que leur burger ait fini de griller. Ils jurent qu'ils ne les dégusteront pas dans le métro. La nouvelle interdiction de manger qui vaut maintenant dans les rames et sur les quais, ils n'en voient pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas après tout. Derrière eux, un jeune avocat, Fabian, est d'un autre avis.
Aujourd'hui, par exemple, j'ai mangé une ciabatta tomate mozzarella dans les transports. Je sortais du travail et je n'avais pas beaucoup de temps. Je passe presque 2 heures par jour dans les transports en commun et j'aime bien utiliser ce temps pour petit déjeuner ou pour le repas du soir.
Valentin est étudiant. Il trouve l'interdiction inutile, même s'il reconnaît que des odeurs l'ont déjà dérangé pendant ses trajets.
Mais je crois qu'elles viennent surtout des gens, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde dans le métro et que c'est mal aéré.
Finalement, le seul qui se réjouit de l'interdiction de la nourriture dans les métros, c'est le vendeur de kebab.
Moi, ça me dérangeait. La dernière fois, j'ai pris le métro et ça sentait les nuggets de poulet. Des gens en avaient jeté par terre. Je trouve que c'est bien d'interdire ça, oui.
Bulent précise qu'il n'a pas remarqué une baisse de la consommation à son stand depuis que le bannissement est entré en vigueur le 15 janvier. Cette interdiction de la nourriture occupe Vienne depuis des mois. L'été dernier, il y a eu une phase de test seulement sur la ligne 6, avec une grande campagne d'affichage qui semblait d'abord ne s'en prendre qu'au kebab. Mais d'autres casse-croûtes ont ensuite été rajoutées sur les affiches, comme le très autrichien Lieberkäsesemmel, un sandwich au pâté chaud. Depuis le 15 janvier, des annonces rappellent régulièrement les nouvelles règles, ainsi que des écrans d'affichage et des autocollants. La conseillère municipale chargée des transports, Ulisima, a également été très présente dans les médias pour en parler. Est-ce que la municipalité n'en ferait pas trop ? Pas du tout, selon Catherine Liner, porte-parole de la régie municipale des transports en commun. Elle évoque de nombreuses plaintes au fil des années.
C'est pour ça que nous avons fait un sondage l'été dernier. 50 000 personnes ont participé et la grande majorité souhaitait une interdiction. Et pas seulement sur la ligne 6, comme on le prévoyait au début, mais dans tous les métros. Mais pour les enfants et les diabétiques, notre personnel de sécurité et de ménage qui contrôle son application va agir avec discernement. Ils vont rappeler les parents à l'ordre, mais ils ne vont évidemment pas arracher les biscuits ou les croissants des mains des enfants.
Mais si la nourriture est interdite dans le métro, aucune amende n'est prévue pour personne.
Si la municipalité ne prévoit pas d'amende, alors je ne vois pas l'intérêt de l'interdiction.
Christophe Hidakea sourit, mais le jeune chef de file du parti libéral Neos à Vienne a quand même pris la peine d'envoyer un communiqué de presse. Pour lui, toute cette agitation médiatique de la part de la responsable social-démocrate en charge de l'affaire à des fins politiciennes.
Ce qu'on voit à Vienne, c'est que le gouvernement de la ville essaie de jouer sur les interdictions pour se donner une image de fermeté. Ils ont aussi décidé une interdiction de consommer de l'alcool autour de la gare de Praterstern. La culture de l'interdit a le vent en poupe. C'est ce que la social-démocratie actuelle exploite.
Selon ce représentant de l'opposition, la gauche essaye de chasser sur les terres de l'extrême droite en misant tout sur la politique sécuritaire. C'est pour cela que la traque aux victuailles aurait commencé sur la fameuse ligne 6.
Le long de la ligne 6, il y a des problèmes de criminalité et de trafic de drogue. Il fait aussi très chaud sur cette ligne l'été parce qu'elle n'est pas climatisée. Donc des fois, ça pue. Et ils ont utilisé cette atmosphère négative pour communiquer leur interdiction de manger.
Le gouvernement viennois réfléchit maintenant à une nouvelle interdiction pour la capitale, celle des armes dans toute la ville. Tous ces interdits valent au maire social-démocrate, Michael Ludwig, d'être comparé à une sorte de gardien d'immeuble en chef. Mais qu'on ne s'y trompe pas, tout ceci est stratégique. Les élections municipales de 2020 arrivent à grands pas.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur le site RFI.fr, c'est sous l'onglet podcast, et ici, demain, à la même heure.